Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Haggah, page 10, Daf Yud. Bonne écoute et bon limoud.
Et si tu trouves à redire cette réponse, j'entends dire une autre. Habehabesheti, soit dans la Mishnah, soit dans la Braïta, il s'agit de quelqu'un qui a une union avec une femme mariée, Velakashéa, et quand même, il n'y a pas de contradiction. Nous passons Daf Yud à Moudalef. Kan Bones. Dans la Mishnah, il s'agit de quelqu'un qui a violé une femme mariée, et par conséquent, n'est pas interdite sur son mari, mais que si un enfant naît de cette union, que ce sera considéré comme une faute irréparable. Kan Beratson. Par contre, dans la Braïta, il s'agit de quelqu'un qui a une union avec une femme mariée, mais volontairement de la part de la femme aussi, et par conséquent, elle a été interdite sur son mari, et nous considérons dès lors ce péché comme étant irréparable. Veibaitema. Et si tu trouves à redire cette réponse, j'en dirai une autre. Dans les deux cas, soit dans le Mishnah, soit dans la Braïta, il s'agit de quelqu'un qui aurait violé une femme mariée. Velakashéa, il n'y a quand même pas de contradiction. Kan Beshet Kohen. Dans la Braïta, il s'agit de quelqu'un qui aurait violé la femme d'un Kohen. Par conséquent, elle est déjà interdite sur son mari, puisqu'il s'agit d'un Kohen. Et donc, il reste une trace à son péché. C'est une faute, c'est un péché irréparable. Kan Beshet Israël. Par contre, dans la Mishnah, il s'agit de quelqu'un qui aurait violé la femme d'un Israël. Elle n'est pas interdite. Et ce n'est que si un enfant naît de cette union qu'il reste une trace à ce péché et à ce moment devient irréparable. Nous avons fini le shiur de Chagiga d'Aftet. Nous commençons le shiur de Chagiga d'Aftet à la troisième ligne du haut de la page. Le pasuk dans Zechariah qui parle de la période difficile qui précédera la venue du Mashiach dit, entre autres, « Vela yotze, vela ba, en shalom ». Celui qui sortira et celui qui rentrera n'aura pas de paix, il y aura toujours un attaquant qui l'attendra au coin de la rue. L'Agmara interprète ce passage comme parlant de celui qui quitte l'étude de la Torah. Amar Rav, Kivan, Shiyotse Adam et Dvar Alakha, les Dvar Mikra, si une personne quitte l'étude de la Alakha, donc l'étude des Mishnayot, où les Alakhot sont écrites clairement, pour se suffire de l'étude du Chumash, donc de la loi écrite, Shuv Enlo Shalom, il n'aura plus de paix. Parce que la Torah est interprétée dans les Mishnayot, et donc on ne peut pas tirer de conclusion et atteindre la Alakha juste. En apprenant uniquement le Chumash, puisque les interprétations du Chumash ont été transmises oralement au Chachamim, par Moshe Rabbeinu, il n'aura donc plus de paix, il ne pourra plus atteindre la conclusion exacte de la Halakha. Ou Shmuel Amar, Zeh Aporesh Mitalmud la Mishnah. Il s'agit de celui qui quitte l'étude de la Gemara, donc les interprétations de la Mishnah, pour se suffire uniquement de l'étude de la Mishnah. En effet, on ne peut pas conclure la Halakha à partir de l'étude seule de la Mishnah. Il y a des fois des Mishnayot qui sont un avis unique, ou bien qui ne sont pas assez interprétés. Il faut ajouter les interprétations qui sont fixées dans la Gemara. Il ne pourra donc pas atteindre la conclusion juste de la Halakha. Rabbi Yochanan Amar dit, « Afilo Mishas Leshas », même celui qui quitte l'étude du Talmud d'Yerushalmi pour atteindre donc l'étude du Talmud Bavli, il n'aura plus de paix. En effet, dans la Gemara de Sanhedrin d'Afrav Dalet, la Gemara interprète le pasouk de Echa disant Bemachshakim Hoshivani Kimeteolam, il m'a installé dans l'obscurité comme les morts. La Gemara interprète qu'il s'agit du Talmud Bavli, parce que c'est un Talmud qui n'est pas clair, qui est très obscur et très profond. C'est pourquoi celui qui apprend le Talmud Bavli, qui n'a pas atteint le niveau pour le comprendre comme il se doit, il n'aura plus de paix, il ne pourra plus atteindre la conclusion exacte de la halakha. Nouvelle Mishnah. Heter Nedarim. Les lois concernant l'annulation des vœux qui peuvent être faites sous certaines conditions par le sage ou par le tribunal, comme c'est décrit dans Maseret Nedarim. Pour Hinba Avir, ce sont des lois qui volent en l'air, ven laim al mashis mohu, et n'ont pas sur quoi s'appuyer. En d'autres termes, ce sont des lois qui ont été transmises oralement par Moshe Rabbeinu au sage. Ce sont des lois qui n'ont pas été écrites dans la Torah. Hilchot Shabbat. Les lois concernant les interdits de Shabbat, Chagigot, les lois concernant l'offrande du Korban Chagiga, Vehameilot, et les lois concernant la transgression de celui qui se sert des objets appartenant au Ekdesh, Harehen Keharim, Hatluim Besara, ce sont comme des montagnes qui tiennent à un cheveu, parce que Shehen Mikra Muat, Vehalachot Murbot, parce qu'il y a peu de psukim qui en parlent, il y a beaucoup d'alachot. En d'autres termes, il y a très peu, le pasouk fait peu allusion aux alachot concernant le Shabbat, le Korban Chagiga et l'interdiction de Meila.
Hadinim, les lois monétaires, veha avodot, et les lois concernant l'offrande du korban, veha rot vatumot, et les lois concernant la pureté et l'impureté, veha rayot, et les lois concernant les unions interdites par la Torah, yesh lehen alma sheismohu, ces lois ont sur quoi s'appuyer, il y a des allusions plus claires dans les psukim de la Torah, vehen hen gufe Torah, et ce sont les lois fondamentales de la Torah. On ne dira pas que, puisque la Torah ne les a pas écrites clairement, ce sont des halakhot secondaires, mais ce sont les lois fondamentales de la Torah. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que les lois concernant l'annulation des vœux, ce sont des lois qui ne sont pas écrites dans la Torah. Tanya, il a été écrit dans une Braïta, Rabbi Eliezer Omer dit, Yesh lahem al mashil smohu. Ils ont, donc les lois concernant l'annulation des vœux ont sur quoi s'appuyer. Il y a une allusion dans la Torah. Chez Nehemar, parce que le pasouk dit, ki afli shne pa'amim. La Torah emploie deux fois, à deux reprises, le terme de ki afli, qui veut dire s'exprimer clairement. Une fois, à propos du paragraphe concernant les harachim, c'est celui qui s'engage à payer au betamikdash la valeur d'un homme selon les critères fixés par la Torah. Une deuxième fois, à propos des lois du nazir, aussi la Torah emploie le terme de ki afli. C'est celui qui prend sur lui un vœu d'abstinence pendant une certaine période pendant laquelle il ne boira pas de vin ni consommera les produits du raisin, se laissera pousser les cheveux et ne se rendra pas impur par le contact d'un mort. Alors que la Gemara demande ici pourquoi la Torah emploie à deux reprises le terme de ki afli. Alors Rabbi Eliezer répond, achat hafla aleiso, une fois le terme de ki afli, c'est-à-dire le terme de s'exprimer clairement, parle de l'interdiction, c'est-à-dire il faudra exprimer clairement la nature de son vœu pour que cette interdiction, ce vœu, prenne effet. Bachat hafla l'éther. Et la deuxième fois, c'est donc c'est le fait de s'exprimer clairement pour la permission. Il ira chez le Talmid Chacham ou au tribunal. Il dira qu'il avait pris sur lui ce vœu dans un état d'esprit donné. Il n'avait pas pris en ligne de compte un changement de situation qui rendrait l'accomplissement de ce vœu plus difficile qu'il ne le pensait, voire même impossible. À ce moment-là, sous certaines conditions, ils pourront annuler ce vœu. Nous voyons donc une allusion dans la Torah quant à la halakhot de l'annulation du vœu. Rabbi Yehoshua Omer dit, Yesh lahem al mashis mochu, ces lois donc concernant l'annulation du vœu ont sur quoi s'appuyer. Il amène un autre pasouk pour cela, chez Nehemar, parce que le pasouk dit dans Tehilim, Akash Bokhu parle à propos des béné Israël sortis dans le désert, donc la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte dans le désert, Asher Nishbati Bapi, à propos desquels j'ai juré par la colère qu'ils ne rentreront pas en Eretz Israël. Alors, puisque le pasouk emploie le terme de Bapi, donc en d'autres termes, nous voyons ici une raison pour ce serment. On ne voit pas pourquoi le pasouk le dit. On peut comprendre que Bapi Nishbati Vechazar Tibi, j'ai juré par la colère, mais en fait, j'ai changé d'avis. Le Barasha précise qu'il y a qu'il y a une Gemara dans Bava Batra, où justement, on parle aussi d'un serment d'Akadosh Baruch Hu, où il a regretté, mais comme il le précise dans la manière qu'il s'est exprimé, qu'il n'y avait personne pour permettre ce vœu. Donc c'est peut-être cela aussi, l'interprétation de cette Gemara ici, en fait, que dans ce passouf, nous voyons une manière de se rétracter du vœu, mais en fait, il n'y avait personne pour le permettre, personne n'a pu permettre ce serment qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Rabbi Yitzhak Omer dit, Yesh lahem al mashil smochu, ces lois ont sur quoi s'appuyer. Une autre allusion dans la Torah, chez Nehemar, parce que le pasouk dit, à propos de ceux qui ont fait des dons pour la construction de Mishkan, kol nediv libo, tout celui dont le cœur est généreux. Nous voyons qu'au moment où il amène ce don pour la construction de Mishkan, il faut encore qu'il soit dans le même état d'esprit, qu'il ait encore l'intention de le donner. Sinon, il a une possibilité de se rétracter. Chanel ben achi Rabbi Yehoshua Omer, Yesh lahem al mashis mochu, ces lois ont sur quoi s'appuyer. Il amène aussi un autre pasouk, chez Nehemar, Mishbati vakayema, lishmor mishpete tzidkecha. J'ai juré et j'accomplirai ce serment de garder tes lois justes. Donc nous voyons qu'il a une possibilité aussi de se rétracter de son serment. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Yavayatam, si j'avais été là-bas, donc au moment où les sages ont parlé des différentes allusions concernant la loi de l'annulation du vœu, Amré Lehu, je leur aurais dit, Didi Hadifa Miditru. Moi j'ai une meilleure allusion que les différents psukim que vous avez amenés. Chez Nehemar, parce que le pasuk dit dans Bamidbar, donc dans Parashat Matot, Lo Yachel Devaro, celui qui fait un vœu ne pourra pas profaner sa parole, ne pourra pas transgresser sa parole. Alors, puisque le pasouk parle de la personne qui a fait le vœu, nous comprenons de ce pasouk, Hu eno mochel, lui ne pourra pas transgresser ses paroles, ne pourra pas profaner ses paroles. Aval acherim mochel milo, par contre, d'autres pourront profaner sa parole. En d'autres termes, il y a certaines possibilités où son vœu pourra être annulé. Amar Rava, Rava a dit à ce sujet, le kulhu itleopicha, tous les psukim amenés par les différents Tanaïm peuvent être réfutés, ce n'est pas vraiment une allusion. Les varmes de Shmuel, de l'etlepicha, à part l'allusion que Shmuel a amenée, là-dessus, il n'y a pas de réfutation. Et im et de Rabbi Eliezer, si il s'agit du pasuk de Rabbi Eliezer, donc du fait que la Torah employait deux fois le terme de kiafli, c'est celui qui s'exprime clairement, Dilma, qui est de Rabbi Yehuda, Shama Mishum Rabbi Tarfon. Peut-être que cette deuxième fois où le pasouk emploie le terme de kiafli ne vient pas pour nous enseigner l'allusion qui permet d'annuler le vœu, mais pour la halakha que Rabbi Yehuda a enseigné au nom de Rabbi Tarfon. Détania, parce que nous voyons dans une breita, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, le olam, en echad mehem nazir. Il s'agit d'un cas où il y a deux personnes assises ensemble, et puis il y a une troisième personne qui passe devant eux. Sur cette troisième personne, il y a un doute si cette personne est nazir ou non. Alors, une des personnes qui aura dit « Je prends sur moi le vœu de devenir nazir si cette personne qui passe devant nous est nazir. » La deuxième personne dira « Si la deuxième personne dit « Je prends sur moi le vœu d'être nazir si cette troisième personne qui passe devant nous n'est pas nazir. » Alors, Rabbi Tarfon enseigne qu'aucun des deux ne sera nazir, même s'il s'avère que l'un des deux, enfin, il s'avérera à la fin que l'un des deux aura raison. Quand même, aucun des deux ne sera nazir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas prendre sur soi de vœux de nazir, seulement d'une manière claire. Il ne peut pas avoir de doute à ce sujet. Donc, puisqu'au moment où ces deux personnes ont exprimé leur volonté de devenir nazir, il y avait un doute à ce sujet, lequel des deux serait nazir, aucun des deux, donc, ne sera nazir. Cela, on apprend du terme de kiafli. Il faudra que la volonté soit exprimée clairement au moment où la personne veut devenir nazir. Im et Rabbi Yehoshua, si il s'agit du pasouk que Rabbi Yehoshua nous a enseigné, du fait que Akosh Baruch Hu dit dans Tehilim, Asher Nishbati Berpi, j'ai juré par un accès de colère, Dilma Hachikama, peut-être que ce pasouk ainsi a voulu dire, Berpi Nishbati Velo Adarnabi. En fait, le péché de Israël était tellement grave, il s'agit ici du péché de Maraglim, que je me suis mis en colère, et par conséquent j'ai juré que les Bnei Israël ne rentreraient pas en Eretz Israël, et je ne me rétracterai pas de ce serment. I mid Rabbi Yitzhak, s'il s'agit du pasouk de Rabbi Yitzhak, qui apprend du pasouk Kol Nediv Libo, celui dont le cœur est généreux, Dilma Lafouke Midi Shmuel, peut-être que ce terme de Kol Nediv Libo nous vient exclure l'avis de Shmuel, Damar Shmuel, parce que Shmuel a dit Gamar Belibo. Celui qui décide dans son cœur à propos d'un vœu quelconque, ou par exemple de donner de la tzedaka ou autre, tzarir shotzi bisfatav, il faut qu'il l'exprime par ses lèvres, en d'autres termes, il faut qu'il le sorte de sa bouche pour que ce vœu prenne effet. Sinon, non. Alors justement, du pasouk de Kol Nediv Libo, Vehakamashmalam, ce pasouk nous enseignerait, daf al gav de lotzi bisfatav, que même s'il ne l'a pas proféré par ses lèvres, il suffit de. Sa décision suffit pour que ce vœu prenne effet. Mais en fait, il n'y a pas de preuve que le vœu puisse être annulé. Imed Chananya ben Achi Rabbi Yehoshua, s'il s'agit du pasouk de Chananya, le neveu de Rabbi Yehoshua, qu'il apprend du pasouk Nishbati Bakaima Lishmor Mishpete Tzidkecha, j'ai juré et j'accomplirai le vœu d'accomplir tes lois justes. Dilma, que de Rav Gidal Amarav, peut-être que ce pasouk ne nous parle pas du fait qu'on puisse. Ne fait pas une allusion qu'on puisse annuler un vœu, mais nous enseigne la halakha comme Rav Gidal l'a enseigné au nom de Rav. D'am Rav Gidal Amarav, minayin shnishbaim lekayem et hamitzvah, d'où ce qu'on sait qu'un serment puisse prendre effet pour l'accomplissement d'une mitzvah. On ne dira pas que le fait d'accomplir une mitzvah, c'est un serment, c'est un vœu, un serment auquel on s'est engagé déjà au Har Sinai, chez Nehemar. Parce que le pasouk dit, Nishbati Bakaima Lishmor Mishpete Tzidkecha, j'ai juré, j'accomplirai le vœu d'accomplir tes lois justes. Nous voyons donc de ce pasouk qu'on peut faire un serment pour accomplir une mitzvah et ce serment prendra effet. Et là, de Shmuel, l'etlepircha. Par contre, le pasouk que Shmuel a amené de Loyachel de Varo, il ne pourra pas transgresser sa parole ou profaner sa parole. On comprend de ce pasouk que quelqu'un d'autre puisse le faire. En d'autres termes, le Chacham, dans certaines conditions, peut annuler son vœu. Là-dessus, il n'y a pas de réfutation. Amar Rava Vitema Rav Nachman Bar Yitzhak, Hainu Damrin, cela correspond au proverbe que les gens ont l'habitude de dire, Tava Chada Pilpalta Harifta, une graine de piment fort est plus forte, donne plus de goût, Mimale Tsana de Carré, qu'un panier plein de courges. En effet, le piment est fort, et même une petite quantité donne beaucoup de goût. Là, on fait l'allusion, donc, que le Amora, qui est beaucoup plus petit par rapport au Tanaïm, des fois, puisse donner une meilleure raison que le Tanaïm. Maintenant, on prend le passage de la Mishnah qui dit « Hilchot Shabbat », les halachot concernant les interdits du Shabbat, sont des halachot où la Torah n'en parle pas beaucoup. Maintenant, demande « Mirtav Tivan », les lois de Shabbat sont écrites clairement, puisque la Torah écrit à plusieurs reprises qu'on n'a pas le droit de faire des travaux Shabbat. La Gemara répond La tzricha l'ekde Rabbi Abba. En fait, ce que la Mishnah fait allusion à la halakha enseignée par Rabbi Abba, qui n'est pas écrite clairement dans la Torah. Dehama Rabbi Abba, parce que Rabbi Abba a enseigné, Hachofer Guma be Shabbat, celui qui creuserait un trou pendant Shabbat, dans sa maison, dans sa cour, Ben Tsarich et l'Aleafra, mais en fait, il n'a pas besoin du trou, il ne voudra pas s'en servir, mais ne veut se servir que de la terre provenant de ce trou, Patur Aleha, il est Patur, il n'a pas transgressé l'interdit de Shabbat. La Gemara demande, Keman, comme qui va cet enseignement de Rabbi Abba? La Gemara répond, que Rabbi Shimon. Cet enseignement de Rabbi Abba suit l'avis de Rabbi Shimon d'Amar qui dit, Malacha shenatzicha l'gufa, Patur Aleha. Celui qui fait un travail, mais pas dans l'esprit habituel, mais le fait dans un autre but, il est Patur, il n'a pas transgressé l'interdit de Shabbat. Rabbi Shimon parle d'un cas de quelqu'un qui ferait sortir un mort dans un lit pour l'enterrer. En fait, cette personne aurait préféré ne pas avoir de mort chez lui. Ce qu'il veut, en fait, c'est se débarrasser de ce cadavre. En fait, l'interdiction de transporter quelque chose le Shabbat, d'un domaine privé à un domaine public, est pour celui qui a besoin de quelque chose dans le domaine public. Si, en fait, il veut se débarrasser de ce qu'il a chez lui, il n'a pas transgressé l'interdiction de transporter. Ça s'appelle Melacha Shenatzichal Gufa. Dans notre cas aussi, celui qui creuse un trou, en général, il s'agit de l'interdiction de bonnet, puisqu'un trou dans une maison, dans une cour, peut être employé pour y enfouir quelque chose, pour mettre quelque chose. Là, en fait, il n'a pas du tout besoin de ce trou, il a besoin de la terre provenant de ce trou. Il aurait préféré ne pas avoir à creuser, mais d'avoir de la terre prête. Donc là aussi, nous dirons qu'il s'agit du Melacha Shenatzichal Gufa. Selon l'avis de Rabbi Shimon, il serait pas tout. Magma répond, Afilu Temal Rabbi Yehuda. On pourra même se dire que cet enseignement de Rabbi Abba est en accord avec l'avis de Rabbi Yehuda, parce que Hatam, Metaken, là, dans le cas où celui qui porte le mort pour l'enterrer, en fait, il arrange quelque chose puisqu'il enterre ce mort. Haha, dans notre cas où il creuse le trou pour employer la terre, Mekalkelhu, il abîme. En effet, le parterre d'une maison, d'une cour, doit être plane. On ne creuse un trou que si on a besoin pour l'utiliser. Celui qui creuse un trou pour employer la terre, en fait, il abîme la cour ou le parterre de sa maison. Donc là, même selon l'avis de Rabbi Yehuda, il est pas tout, parce que tout celui qui abîme quelque chose le Shabbat n'a pas transgressé d'interdit le Shabbat, s'il ne le fait pas dans l'intention d'arranger quelque chose de mieux. Donc en fait, cet enseignement de Rabbi Abba est en accord soit avec l'avis de Rabbi Shimon, soit avec l'avis de Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Maïke Harari Matluim Bessahara, pourquoi est-ce qu'on appelle cette halakha de Melacha Shenatzichal Gufa une montagne qui tient un cheveu? C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'allusions dans la Torah. Nous tournons la page à Daf Yudamud Bet. La Gemara répond, Melechet Marchevet Asra Torah. Le fait que sur la Melacha Shenatzichal Gufa, le travail qui n'est pas fait dans l'esprit habituel de ce travail, on le sait que celui qui le fait n'a pas à transgresser d'interdit le Shabbat, parce que la Torah a interdit un travail intentionnel en employant le terme de Melechet Marchevet. Ou Melechet Marchevet Loktiva. Mais en fait, à propos des halakhot de Shabbat, la Torah n'a pas employé le terme de Melechet Marchevet, un travail intentionnel. La Torah l'a employé à propos de la construction du Mishkan, qui est écrit dans la même paracha que la paracha du Shabbat. C'est-à-dire dans la paracha de Vayakel, la Torah parle de l'interdit du Shabbat et de la construction du Mishkan. À propos de la construction du Mishkan, la Torah emploie le terme de Melechet Marchevet, et c'est de là qu'on apprend que pour le Shabbat aussi, il faut Melechet Marchevet, un travail intentionnel, et par conséquent, Melacha Shenatzichal Gufa, ce n'est pas un travail interdit le Shabbat. Donc c'est pourquoi on l'appelle, ce n'est qu'une allusion qui est faite par la Torah, c'est donc une montagne qui tient à un cheveu. La Gemara reprend le passage.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
La Gemara demande, Maïke Harari Matluim Bessahara, pourquoi est-ce qu'on appelle cette halakha de Melakha Shenetzchal Gufa une montagne qui tient à un cheveu, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup d'allusions dans la Torah. Nous tournons la page à Daf Yud Amud Bet. La Gemara répond, Melechet Marchevet Asra Torah. Le fait que sur la Melakha Shenetzchal Gufa, le travail qui n'est pas fait dans l'esprit habituel de ce travail, on le sait que celui qui le fait n'a pas à transgresser l'interdit le Shabbat, parce que la Torah a interdit un travail intentionnel en employant le terme de Melechet Marchevet. Ou Melechet Marchevet Loktiva. Mais en fait, à propos de la halakhot de Shabbat, la Torah n'a pas employé le terme de Melechet Marchevet, un travail intentionnel. La Torah l'a employé à propos de la construction du Mishkan, qui est écrit dans le même dans la même paracha que la paracha du Shabbat, c'est-à-dire dans la paracha de Vayakel. La Torah parle de l'interdit du Shabbat et de la construction du Mishkan. À propos de la construction du Mishkan, la Torah emploie le terme de Melechet Marchevet, et c'est de là qu'on apprend que pour le Shabbat aussi, il faut Melechet Marchevet, un travail intentionnel, et par conséquent, Melacha Shenetzchal Gufa, ce n'est pas un travail interdit le Shabbat. Donc c'est pourquoi on l'appelle, ce n'est qu'une allusion qui est faite par la Torah, c'est donc une montagne qui tient à un cheveu. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Chagigot, les lois concernant l'offrande du Korban Chagiga, ce sont aussi une loi qui est une montagne qui tient par un cheveu. La Gemara demande, Mirtav Ktivan, en fait c'est écrit clairement dans la Torah qu'on doit offrir ce Korban Chagiga, nous l'apprenons du Pasuk Bechagotem Otochag Lachem, vous ferez une fête pour Akash Baruch Hu, vous offrirez un Korban. La Gemara répond, La Tzricha, l'Ekdamar le Rafapa Lavaye. En fait, ce qu'on a besoin, à ce que la Mishnah fait allusion, c'est à ce que Rafapa a posé comme question à Abaye. En effet, Rav Papa a posé la question suivante à Abaye, Mimaïd Haï Bechagotem Otochag Lachem, Zvicha, d'où est-ce qu'on sait que quand le Pasuk dit vous ferez une fête pour Akash Baruch Hu, le Pasuk parle de l'offrande d'un Korban, Dilma, peut-être que la Torah nous dit juste de faire une fête, mais pas d'offrir un korban. Alors Abba, il a répondu, « Et la Me'ata, si c'est comme ça, dire-t-il, quand le Pasuk dit, quand Moshe Rabbeinu parle à Paro, envoie les Bnei Israël dans le désert, « Ve'yachogu li bamidbar » et feront pour moi une fête dans le Midbar. « Hachinami de chogu chagahu » Est-ce que là aussi on pourrait interpréter voulant dire « faites une fête » Donc le terme de « Ve'yachogu » cela voudrait dire juste faire une fête. Vichit et Ma'achina, mais si tu veux me dire que effectivement c'est ça ce que la Torah a voulu dire, d'active, voici que le pasouk dit plus loin, Vayomer Moshe, Moshe Rabbeinu a dit à Paro, Gamata titen biadenus vachim veolot, toi aussi tu nous donneras des korbanot et des korbanotola. Donc zvachim c'est des animaux. Donc nous voyons qu'ils auront besoin des animaux pour les offrir en tant que korban. Donc il est évident que le terme de Vayorhogu voudra dire offrir de korban. De là, nous apprenons aussi que le terme de Fragotem, Oto Chag Lachem, voudra dire aussi offrir un korban. Alors, papa réplique, Dilma Harika Amaram Rachamana. Peut-être c'est ainsi que la Torah a voulu dire, Ichlu Vish Ushtu Vechugu Chaga Kamai. Mangez et buvez et faites une fête, réjouissez-vous devant moi. En fait, c'est pour cela qu'on aura besoin des zvachim, c'est-à-dire des animaux à sacrifier. C'était pour pouvoir manger, mais pas pour devoir offrir un korban. Le rabbi lui répond, Los al Kadatar, tu ne peux pas interpréter ainsi le pasouk, dirtiv, parce que le pasouk dit, Velo Yalin Chelev Chagi Ad Boker, et vous ne laisserez pas en dehors du Mizbeach la graisse de mon Korban Chagiga jusqu'au matin. Nous voyons donc que le terme de Chag s'applique sur le Korban Chagiga. Parce que, Vis al Kadatar, il faut lire ici de Chugu Chaga, que le terme de Veachoguli, c'est-à-dire faites une fête, et donc le terme de Chagi se rapporterait à la fête. Tarba le Chaga Itle, est-ce que la graisse, la fête a de la graisse, pour que la Torah nous dise qu'il ne faut pas laisser la graisse jusqu'au matin? Le Rav Papa lui répond, Vedilma Achika Marachmana, peut-être c'est ainsi que la Torah a voulu dire, Chelev Haba Bizman Chag Loyalin, la graisse du Korban offert à l'occasion de la fête ne devra pas rester en dehors du Mizbeach jusqu'au matin, ne devra pas passer la nuit en dehors du Mizbeach. Et donc le terme de Chagi parle de la fête, mais ne parle pas de l'offrande d'un Korban. Alors Abaye lui réplique, Ela me'ata haba bizman chag hu de lo'alin. Donc on comprendrait de ce passage que la graisse du korban offert à l'occasion de la fête ne devra pas passer la nuit hors du misbéach. Ha de kol hashana kula yalin. Mais par contre, la graisse provenant de l'offrande des korbanot tout le long de l'année pourra rester hors du misbéach. Et c'est impossible parce que dans Parashat Tzav, le passage dit kol alayla adabo kertif. Il faudra brûler les korbanot toute la nuit jusqu'au matin. Donc nous voyons que jusqu'au matin on peut brûler le korbanot, après le korban devient pasoul. Alors Rav Papa lui répond, Imeahu, Haba Mina, Hahu le'ase katavachamana. si on avait juste ce pasouk dans Parashat Tzav, nous aurions cru que le pasouk veut nous dire qu'il y a l'interdiction, c'est une mitzvah assez. À ce sujet, il y a une mitzvah assez donc de brûler le korban toute la nuit jusqu'au matin, mais celui qui ne le fait pas n'a pas transgressé l'interdiction. Il n'a pas transgressé l'interdiction s'il a laissé la graisse toute la nuit en dehors du misbéach. Hay lelav. Par contre, le deuxième pasouk de Loyalin Chelef Hagar Aboker, c'est un mitzvah lota assez, donc c'est une transgression plus grave. Abaye lui répond, l'élave katav kracharina, si c'est pour nous enseigner une interdiction grave de l'otase, le pasouk déjà nous l'enseigne ailleurs, puisque le pasouk dit dans Parashat Re'eh, velo yalin minabasar ashatisbar ba'erev, bayom rishon laboker. Et la viande ou la graisse provenant du korban que tu as offert, que tu as sacrifié la veille de ce premier jour du Yom Tov, ne devra pas passer la nuit jusqu'au matin en dehors du misbéach. Nous voyons bien que le pasouk dit clairement que le korban ne doit pas passer la nuit en dehors du misbéach. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un deuxième pasouk si ce n'est pour dire qu'il faut offrir un korban chagiga le jour de Yom Tov? Alors Rafapa lui répond, peut-être que le pasouk le dit à nouveau pour transgresser deux interdictions de l'autre assez et une interdiction de assez. Donc en fait nous aurions trois psukim qui nous disent la même chose pour nous enseigner la gravité de cette faute. Donc en fait nous n'avons pas de preuve que le pasouk de Loyalin Chelev Chagiga Boker qu'on doive offrir un korban chagiga. C'est pourquoi Abaye le répond, et là Atia Midbar Midbar. On apprend d'une Xera Shava à propos de deux fois le terme de Midbar employé à deux reprises dans la Torah. Ktiv Hachavi Achoguli Bamidbar. Le pasouk dit une fois dans Sefer Shemot, et les Béné Israël iront offrir ou feront une fête dans le Midbar, dans le désert. Uktivatam, il est écrit dans Amos, Hazbachim u Mincha Igashtem le Bamidbar, m'avez-vous offert dans le désert des korbanot et du korban Mincha à base de farine? Donc nous voyons bien que dans le désert, des korbanot ont été offerts. Donc de la même manière que quand le pasouk de Amos, qui emploie le terme de Midbar, parle d'offrande de korbanot, là aussi le terme de Bamidbar dans Sefer Shemot nous parle aussi d'offrande de korbanot quand le pasouk emploie le terme de Ve'achogu. Donc de là nous apprenons que le terme de Ve'achogu veut parler d'offrande de korbanot. Par conséquent, quand le pasouk dit Ve'chagotem oto chag l'Hashem, il s'agit aussi de l'offrande de korbanot. La Gemara demande Umay kahari matlui besahara. Pourquoi on appelle cela une montagne qui tient un cheveu? Finalement, c'est une bonne interprétation de la prenant d'une Gzera Shava. La Gemara répond Divrei Torah mi divrei Kabbalah le alfinan. En général, on ne peut pas interpréter les paroles de la Torah à partir de psukim trouvés dans le Navi. Donc c'est pourquoi c'est pas un enseignement véritable. Ce n'est considéré que comme une allusion. Meilot. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que les lois concernant l'interdiction de Meila ne sont pas écrites clairement dans la Torah, ce sont en fait que des allusions. L'interdiction de Meila est l'interdiction de tirer profit de quelque chose qui appartient au Hekdesh. Celui qui en tire profit volontairement devra évidemment rembourser les dégâts. Celui qui le fait par mégarde, en plus du dédommagement, devra payer un surplus de 20%. Et amener un korban qui s'appelle le korban Meila. Sur cela, qu'on dit qu'il a transgressé l'interdiction de Meila, c'est-à-dire donc il devra offrir ce korban. La Gemara demande Mirtav Ktivan. Les lois concernant cette interdiction de Meila sont écrites clairement dans Parashat Vayikra. La Gemara répond Amar Rami Bar Chama. Lo nitzrecha elale keletnan. En fait, la Mishnah nous fait allusion à cette Mishnah de Maseret Meila. Cette Mishnah parle donc de l'interdiction de Meila. Plus précisément, la Mishnah nous parle d'un cas d'un émissaire qui transgressait donc cette interdiction de Meila pour le compte de son envoyé. Nous considérons que cette action, comme si elle avait été faite par celui qui l'a envoyé. Alors la Mishnah dit, Hashaliach she'asah shlichuto, donc celui qui aura envoyé quelqu'un acheter quelque chose avec de l'argent qui s'avère par la suite être de l'argent de Hekdesh. Et donc l'émissaire a fait ce qu'on lui a demandé de faire, a acheté ce qu'on lui a demandé d'acheter. Balabait Mahal, celui qui l'a envoyé, a transgressé cette interdiction de Meila. Et donc c'est lui qui devra rembourser au Hekdesh, payer cette peine, ce supplément de 20% et offrir le korban. Par contre, lo asa shlichuto, s'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, il a acheté autre chose, par exemple, shliach ma'al, alors c'est l'émissaire qui aura transgressé cette interdiction de Meila, puisqu'il n'est plus considéré comme émissaire, il l'a fait en fait pour son propre compte, et par conséquent devra subir les conséquences et devra rembourser au Hekdesh en plus du payer en plus le supplément de 20% et offrir le korban. Là-dessus, la Gemara demande Vechi asa shlichuto amay ma'al. Même s'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, pourquoi est-ce que c'est celui qui l'a envoyé qui a transgressé cette interdiction de Meila? Vechi zechote veze mitrayev. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui a fait une avera, qui a transgressé une avera, et c'est quelqu'un d'autre qui en subit les conséquences? En effet, dans la Gemara de Kiddushin daf Membet Amud Bet, il est expliqué que il est vrai que l'action faite par un émissaire pour le compte de quelqu'un d'autre est considérée comme faite par l'autre personne, mais s'il s'agit d'une transgression, d'une avéra, cette action n'est pas considérée comme faite par celui qui l'a envoyée. Nous l'apprenons dans la Gemara de Kiddushin de certains psukim. L'idée générale derrière cette règle générale est qu'une personne n'est pas censée écouter un ordre qui contredit la Torah, et donc s'il fait une action qui est contre l'avis de la Torah, il le fait donc pour son propre compte, mais comme le précise le Ritva sur place dans Kiddushin, même si l'émissaire ne sait pas qu'il s'agit d'une interdiction, quand même, on ne peut pas appliquer la loi de Shlichut à ce sujet. Nous ne dirons pas que son action est considérée comme faite par son envoyeur. Voir aussi le Ptota Choshen, Siman Shin Memchet, Sivkatan Dalet. Alors, la Gemara conclut, Hainu ki harimat luim besara, donc bien que les lois concernant l'interdiction de Meila sont comme des montagnes qui tiennent à un fil. Nous dirons donc que les Chachamim ont trouvé une allusion pour faire une exception pour les lois de Meila, en disant que pour la loi de Meila, nous dirons que la loi de Shlichut s'applique et que l'action faite par un émissaire concernant la transaction de Meila est considérée comme si elle a été faite par son envoyeur. Amar Rava a posé la question suivante, Umay Kushia, qu'est-ce qui est tellement difficile à comprendre à propos de la loi de Shlichut pour la transgression de Meila? Dilma Shani Meila, peut-être que les lois de Meila sont différentes. Di Alpha Chet Chet Mitruma. Parce que nous apprenons les lois de la transgression de Meila d'une Xera Shava à partir du terme de Chet, employé à la fois à propos de l'interdiction de Meila et de la Truma. La Torah dit à propos de l'interdiction de Meila, Vechat Abish Gaga Mikodshe Hashem, si une personne faute par mégarde en utilisant ce qui est Kadosh pour Akadosh Baruch Hu, à propos de la Truma, il est écrit Velotissu à la fret, et vous ne ferez pas de péché. Donc nous voyons bien que la Torah emploie à ces deux reprises le terme de chet. C'est pourquoi nous dirons Mahatam Shluchosh l'Adam Kemoto, de la même manière qu'à propos de le prélèvement de la Truma, nous disons que l'action d'un émissaire d'une personne est considérée comme si elle a été faite par son envoyeur. En effet, la Torah dit à propos du prélèvement de la Truma, Ken tarimu gamatem trumat Hashem, vous prélèverez vous aussi la Truma d'Hashem. De là, nous apprenons que non seulement une personne peut prélever elle-même la Truma, mais elle peut le faire par un émissaire. Afkan shluchosh l'adam kemoto. Alors là aussi, pour la transgression de Meila, nous dirons que l'émissaire d'un homme est considéré comme lui-même, c'est-à-dire. Et donc, à propos de l'interdiction de Meila, nous dirons que si quelqu'un a envoyé quelque chose, par exemple de l'argent, par un émissaire pour qu'il l'utilise, finalement il s'avère que cet argent appartenait au Hekdesh, nous dirons qu'en fait, c'est l'envoyeur qui a transgressé cette interdiction de Meila. Donc, puisqu'il s'agit ici d'une Xera Shava, ce n'est pas une simple allusion, mais c'est une vraie déduction des mots de la Torah, et donc nous ne pouvons pas considérer que cette loi de Meila est considérée comme une montagne qui tient à un cheveu. Et là, Amarava, c'est pourquoi Rava dit que la Mishnah fait allusion à autre chose. L'onitzrecha et la Legdetania, en fait, la Mishnah nous fait allusion à ce qui est écrit dans une Braïta, toujours à propos de la Meila. Il s'agit aussi toujours d'un cas où une personne envoie un autre, par exemple, acheter quelque chose avec de l'argent qui s'avère par la suite être de l'argent de Hekdesh. Nizkar Balabait. Si le propriétaire, donc l'envoyeur, se rappelle et découvre qu'il s'agit ici de l'argent du Hekdesh, quand son émissaire est déjà en route, donc il n'a pas pu lui dire, Velo Nizkar Shaliar, mais l'émissaire ne s'est pas rendu compte qu'il s'agit ici de l'argent de Hekdesh. Alors nous pouvons donc estimer que l'envoyeur n'est plus intéressé à ce que son émissaire fasse cet achat pour lui. Et par conséquent, cet émissaire n'est plus considéré comme son émissaire. Et par conséquent, le propriétaire, donc l'envoyeur, n'a plus de transgression de Meila, Mais par contre, Shliach Mal, c'est l'émissaire qui a transgressé l'interdiction de Meila, parce que, puisqu'il n'est plus l'émissaire de son envoyeur, nous considérons qu'il le fait à son propre compte. Alagmara demande, Shliach Anya Maikavid, finalement ce pauvre émissaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas savoir qu'il s'agit ici de l'argent de Hekdesh. Il l'a fait parce que il pensait toujours être l'émissaire de son envoyeur. Il ne savait pas que son propriétaire n'était plus intéressé à ce qu'il le fasse. Il le fait donc toujours pour le compte de son envoyeur. Alors pourquoi est-ce qu'il transgresserait ici l'interdiction de Meïla? Nous avons donc ici une loi obscure concernant l'interdiction de la transgression de Meïla, et c'est à cela que la Mishnah fait allusion. La Gemara demande à Maravashi. Ravashi a posé la question suivante. Maïkushia, qu'est-ce qui est tellement difficile à comprendre à propos de cette braïta? Dilma, peut-être que nous pourrons dire, Midedave Amotsi Maot Hekdesh, le Khulin. En fait, il est vrai que cet émissaire ne savait pas qu'il s'agissait ici de l'argent de Hekdesh, mais finalement, de la même manière que quelqu'un qui emploie de l'argent du Hekdesh et pour l'employer pour quelque chose de Khulin, quelque chose de profane, là aussi, il ne savait pas qu'il s'agit ici de l'argent de Hekdesh, quand même, nous disons qu'il transgresse l'interdiction de Meïla. Là aussi, cet émissaire, bien qu'il ne savait pas qu'il s'agisse ici d'argent de Hekdesh, quand même, puisque en fait, c'est lui qui a fait cette action d'employer de l'argent de Hekdesh pour quelque chose de profane, il a transgressé cette interdiction de Meïla. Et là, Amar Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit que la Mishnah fait allusion à autre chose. L'onitrecha el alek d'etnan. En fait, ce que la Mishnah nous fait allusion à ce qui est écrit dans une autre Mishnah de Masechet Meïla. Natal even okora shel Hekdesh. Si une personne prend une pierre ou une poutre appartenant à Hekdesh, Harezolo Ma'al, il n'a pas transgressé d'interdiction de Meïla. Par contre, Natna le Chavero, s'il l'a donné à un collègue, Hu Ma'al, le Chavero lo Ma'al. Alors celui qui l'a donné, donc celui qui avait pris cette pierre ou cette poutre, a transgressé l'interdiction de Meïla, puisque finalement, il l'a fait sortir de la propriété du Hekdesh. Mais une fois qu'elle est sortie de la propriété du Hekdesh, elle a perdu son caractère de Hekdesh, et c'est pourquoi même si son ami s'en sert, il n'a pas transgressé d'interdiction de Meïla. Alors la Gemara demande, Mirde Mishkal Shakla, puisque de toute façon il l'a prise pour l'utiliser, Malihu, Mali Chavero, quelle différence y a-t-il si lui-même l'utilise ou si son ami l'utilise? Finalement, puisqu'il va l'utiliser pour quelque chose de profane, il aurait dû donc transgresser cette interdiction de Meïla, soit s'il l'utilise pour lui-même, soit s'il le donne à son collègue. Haïnu Keharim Atlumi Mesahara. La Gemara continue donc qu'il s'agit ici d'une loi obscure. C'est comme une montagne qui tient à un fil, c'est-à-dire les Chachamim ont trouvé une allusion pour dire cette halakha, bien qu'on ne la comprenne pas. La Gemara demande, Umay Kushia, qu'est-ce qui est tellement difficile à propos de cette Mishnah? Dilma Kedesh Shmuel, peut-être qu'en fait cette Mishnah nous enseigne cette halakha que, comme Shmuel l'a interprété, Dehamar Shmuel, parce que Shmuel a dit à propos de cette Mishnah, nous passons à Daf Yudalef Amudalef, Hacha Begizbar, Hamsurotlo, Avne Binyan Askinan.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.